Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus.
Nous avons la parole de Dieu
ici, Jabodima,
qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Nous allons lire un verset dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 57. Nous lirons un verset, je dirais un verset coup de poing, un verset vraiment béni, qui nous parle de l'importance de la repentance. Et c'est de cela dont j'aimerais m'entretenir avec vous ce soir. J'ai voulu intituler le message « La repentance, la clé d'or de la repentance ». La repentance qui est la clé d'or du royaume de Dieu. Ce que le prophète déclare est vraiment important. Puisqu'il dit, au verset 15 du chapitre 57, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite les lieux élevés et dans la sainteté. » Et là, si le texte ne s'arrêtait qu'à cet endroit-là, je crois que nous pourrions tous craindre. Nous pourrions être saisis de peur, saisis de terreur, parce que Dieu sera en train de nous déclarer qu'il est saint, qu'il est le Très-Haut, qu'il habite dans la gloire, dans les lieux élevés, qu'il est un Dieu de sainteté, mais que nous sommes privés de sa gloire et nous ne pouvons pas avoir de contact avec lui. Mais dans ce même verset, alors que Dieu déclare qu'il est saint, qu'il est le Très-Haut, qu'il habite une demeure de sainteté, il dit « mais ». Et si vous avez un stylo, vous pouvez entourer dans votre Bible ce « mais je suis avec l'homme contrit et humilié ». Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. Et nous avons dans ce simple verset, ici, la clé qui nous permet d'entrer dans la demeure du Très-Haut, c'est la clé bénie de la repentance, la clé d'or de la repentance, que Dieu place enfin en face de chacun d'entre nous ce soir, et que nous pouvons tous saisir par la foi, et tourner afin d'entrer dans la présence de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire de parler de la repentance sous cet angle-là ce soir? La repentance va être une bénédiction pour vous ce soir. Il y a quelques années, nous avons eu des élections présidentielles en France, et j'ai eu l'occasion de voir un talk show à la télévision, où tous ceux qui avaient subi la défaite des élections, tous les principaux leaders, étaient autour d'une table sur un plateau télévisé avec un journaliste qui était plutôt mordant ce soir-là et qui a commencé à les cuisiner les uns après les autres et à leur dire « Bon, c'est clair, vous avez tous subi une défaite magistrale, la politique traverse une crise sans précédent en France, vous êtes face à des millions de téléspectateurs qui sont en train de vous écouter. » Est-ce que ça ne serait pas le moment maintenant pour vous de faire le mea culpa? Est-ce que ça ne serait pas le moment pour vous, ici, alors que les principales tendances politiques sont là autour de la table, est-ce que ça ne serait pas le moment pour vous de vous adresser aux téléspectateurs et de faire le mea culpa reconnaissant que vous avez mené la politique d'une manière exécrable depuis des années et qu'il faudrait, quelque part, un peu de repentance chez vous? J'étais stupéfait d'entendre un journaliste employer le mot « repentance ». Et l'un des leaders politiques a commencé à ouvrir fortement sa bouche, il a commencé à froncer ses sourcils, et puis là il s'est adressé aux téléspectateurs et puis aux journalistes avec fermeté et détermination. Il a dit « Nous sommes ici sur votre plateau pour parler de politique et non pas pour parler de religion. Nous devons réajuster nos voix, mais nous ne sommes pas là pour nous repentir de quoi que ce soit devant les Français. Nous devons seulement aménager notre politique, nous devons l'améliorer, nous devons réfléchir. » L'homme rebelle a en horreur l'esprit de repentance. Seul l'homme contrit et brisé sera élevé par Dieu et recevra de Dieu la bénédiction. La Bible dit que le péché, c'est la honte d'une nation. La parole du, La parole de Dieu déclare que le péché, c'est ce qui abaisse une nation, mais seule la justice élèvera une nation. Et je prie pour mon pays, je prie pour la France, parce que le péché est dans notre nation, parce que les choix qui sont faits dans notre pays sont de nombreux choix dictés par le péché et non pas par un esprit de repentance en face de Dieu. Il y a deux freins au péché. La Bible dit que le premier frein, c'est la croix. Jésus est mort sur la croix pour nous délivrer de la puissance du péché. Comment Dieu a-t-il arrêté la puissance du péché? Comment Dieu nous a-t-il donné les moyens de triompher du péché sur la terre? Comment a-t-il fait? Il a payé le plus grand prix, il a donné son fils unique, et Jésus est mort sur la croix. Non pas pour que l'on ait des logos dans nos églises chrétiennes, mais Jésus est mort sur la croix pour détruire la puissance infernale du péché. Jésus n'est pas mort sur la croix pour nous émouvoir et nous faire pleurer. Jésus est mort sur la croix parce qu'en mourant sur la croix, il descendait dans l'arène du péché afin de délivrer l'humanité de la puissance du péché. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ce soir, à vous qui êtes là, au milieu de nous, la croix n'est surtout pas un accident. La croix n'est surtout pas une erreur dans le programme de Dieu. La croix n'est surtout pas une défaite. La croix, c'est la puissance de Dieu. Jésus est mort sur la croix pour vaincre le diable, vaincre la puissance du péché, relever nos vies et relever des nations. La Bible déclare qu'il nous a donné des nations en héritage. Dans tous les villages de France, il y a des clochers, il y a des croix, il y a la puissance de la religion, la puissance du crucifix. Mais ce dont nous avons besoin ce soir, ce n'est pas la puissance du crucifix, mais la puissance du crucifié. La réalité de Jésus. Et c'est en nous tournant vers la réalité de Jésus que nos vies seront restaurées et que notre nation aussi se relèvera de ses cendres. Comme Job s'est relevé de ses cendres, lui qui s'est humilié sur le sac, sur la cendre, lorsqu'il s'est humilié, Dieu lui a montré sa gloire, Dieu l'a restauré et Dieu lui a donné la prospérité. Le seul moyen de connaître la prospérité dans notre vie, c'est de nous asseoir dans la cendre de la repentance afin que Dieu puisse nous relever et nous donner la victoire. Alléluia! L'humanité avance toujours, a dit quelqu'un, mais l'homme reste le même. Nous partons à la conquête de l'univers alors que nous ne sommes toujours pas parvenus à la conquête de nous-mêmes. Notre pays est bien placé pour avoir connu de nombreux changements. Nous avons connu la Révolution française. Ensuite, nous avons connu la Révolution industrielle. Un peu plus tard, la Révolution technique. Ensuite, la Révolution technologique. Nous avons connu aussi la Révolution intellectuelle. Et puis, ces derniers temps, nous avons connu, comme le monde entier, la Révolution informatique. Mais il y a une révolution qui nous manque, cette révolution est spirituelle, c'est la révolution qui consiste à avoir un changement dans nos mentalités. Nous avons connu de nombreuses révolutions en France, mais la France a besoin de cette révolution spirituelle qui consiste à passer par la repentance des péchés. J'aimerais aborder la repentance ce soir au travers de quelques points et vous montrer que la repentance, premier point ce soir, la repentance, c'est votre meilleur allié. La repentance est votre meilleur allié. Que dit la Bible? La Bible dit « Repentez-vous afin que vos péchés soient effacés. » Dieu élève la repentance et lorsque la parole de Dieu élève la repentance, elle la met en face d'un ennemi qui s'appelle le péché. C'est pourquoi la repentance ne sera jamais votre ennemi. La repentance est votre allié. Dieu vous donne la repentance pour taper votre ennemi. Dieu vous donne la repentance pour résister à votre ennemi, et votre ennemi ce n'est pas Dieu, votre ennemi ce n'est pas la repentance, votre ennemi c'est le péché. C'est vrai que si Dieu vous parle de votre péché, ce n'est pas pour vous embarrasser, ce n'est pas pour vous gêner ou pour vous mettre mal à l'aise. Si Dieu vous parle de votre péché, c'est parce qu'il veut vous rendre service. Lorsqu'il vous parle de votre péché, c'est salutaire. Dieu nous dit, nous sommes des pécheurs, il nous dit attention, il y a un abîme, attention, il y a un précipice, et si vous continuez dans le péché, alors vous tomberez dans le précipice. Vous connaîtrez les tourments. C'est pourquoi la Bible parle de la géhenne. C'est pourquoi elle parle de l'enfer. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, il est question du jugement. C'est pourquoi il est question de la ruine, du châtiment éternel. Et Dieu nous dit, ne péchez pas, parce que sinon, vous irez dans cette direction. Le péché, c'est une puissance de mort. Le péché, c'est comme un sida spirituel. Le péché, c'est une maladie incurable. Le seul remède au péché, c'est ce mot repentance. Repentez-vous de vos péchés. Alors que signifie littéralement le mot repentance? Dans le texte grec, le mot veut dire C'est le mot grec, c'est métanoïa, qui signifie révolution, changement, transformation, changement de mentalité. Dieu est en train de nous dire, pour triompher de votre péché, pour triompher de cette puissance de mort, pour guérir de ce mal incurable, pour vous soustraire à la dictature du mal, pour échapper à la main de fer de Satan, vous devez passer par la repentance, vous devez expérimenter un changement dans votre mentalité. Vous devez changer d'attitude, changer vos pensées, changer de conduite, changer de direction, changer de perspective, changer de manière de vivre. Vous devez décider de dire maintenant je ne vais plus vivre pour le péché, mais je choisis de vivre pour Dieu. Ça, c'est le début de la repentance. Je change de destinée, je change de destination. C'est vraiment un mot extraordinaire. Comprenez maintenant que nous ne sommes plus au stade de la pénitence. Il ne s'agit plus de s'infliger des sévices corporels. Il ne s'agit plus non plus de se frapper la poitrine et de faire mea culpa. C'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. C'est ma très grande faute. Non, ce n'est pas ça. La repentance, c'est le message de Dieu. La repentance, c'est ce changement de mentalité où je dis je ne veux plus vivre pour le péché maintenant, je veux vivre pour la sainteté. Je veux habiter la demeure du Très-Haut. Il me donne la clé de la repentance et je veux pénétrer dans son royaume de sainteté. Waouh ! Ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Ça, c'est bon. Deuxième point, la repentance est une tristesse. C'est la tristesse d'avoir offensé Dieu. Il ne s'agit pas de pleurnicherie. Il s'agit vraiment d'une tristesse d'avoir offensé Dieu. C'est vraiment la tristesse d'avoir offensé l'Éternel. C'est plus que des larmes. Troisième point, la repentance, c'est la voix amplifiée de Dieu dans notre conscience. C'est la trompette qui avertit du danger. C'est la trompette qui nous dit, il y a un jugement qui arrive. Le danger arrive en face de vous. La repentance, c'est la sirène qui sonne le ralliement. Lorsque je regarde dans la parole de Dieu, que ce soit dans le prophète Ézéchiel déclare, détournez-vous de vos idoles. Jonas déclare, que les hommes reviennent de leur mauvaise voie. Le prophète Osée déclare, reviens à ton Dieu, dans le livre des Proverbes. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. L'apôtre Pierre à la Pentecôte, repentez-vous et convertissez-vous. Jean-Baptiste, repentez-vous et produisez des fruits dignes de la repentance. Jésus, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La trompette sonne. Dieu fait sonner sa trompette ce soir. La sirène sonne, le ralliement. Dieu est en train de faire retentir sa trompette parce que notre planète arrive au bout. Nous avons détruit la planète. Les scientifiques sont d'accord pour dire que notre monde est arrivé au bout. Que sera ce siècle dans lequel nous vivons ? Quel avenir pour nos enfants ? Ce qui est marqué dans le journal ne fait que confirmer ce que Jésus a annoncé il y a plus de 2000 ans. Jésus avait déjà annoncé les troubles météorologiques que nous connaissons aujourd'hui sur la planète. Il y a quelques années, avec mon épouse, nous revenions de l'Allemagne et on était au volant, on avait vécu une belle expérience en Allemagne. Et alors que nous discutions dans le véhicule, nous avons pris une bretelle sur le côté de la route, nous avons continué notre route, il y a eu un rond-point, puis une autre chicane, et nous continuions à discuter, on oubliait un petit peu la route. Et puis, au bout de quelques temps, ma femme m'a dit, fais attention parce qu'il doit y avoir les gendarmes, on te fait des appels de phare. Et je voyais les gens qui faisaient des appels de phare en face, les voitures qui arrivaient me faisaient des appels de phare. Mais au bout de quelques instants, j'ai compris que ça n'était pas les gendarmes. Les gendarmes n'étaient pas sur le côté de la route, mais nous étions sur l'autoroute, mais en sens inverse. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être sur une autoroute en sens inverse, mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, vous appuyez sur le frein à 250 000 km à l'heure, et vous passez la marche arrière, vous faites demi-tour. Pourquoi ? Parce que le danger est en face. Voilà pourquoi nous devons nous repentir de nos péchés, parce que le danger est en face. Le danger vient, la colère de l'Éternel. La Bible dit, c'est la terrible tempête de Dieu qui vient. La repentance est une grâce que Dieu nous fait. En Éden, il a sacrifié les animaux, il a recouvert Adam et Ève avec des vêtements ensanglantés, il les a couverts du sang. Et la merveilleuse histoire de la rédemption fut inaugurée. La love story de Dieu, une histoire d'amour éternel. Et tout au long des dispensations, Dieu n'a cessé de bénir ses créatures, ceux qui sont venus à lui. Il n'a cessé de les couvrir de sa grâce et de sa miséricorde, jusqu'à la saison au temps marqué de Dieu, où Christ est mort sur une croix pour les péchés de l'humanité. Ce qui signifie que ce soir, nous n'avons plus besoin d'un temple, nous n'avons plus besoin de sacrifier des veaux, des boucs, des poulets, des coqs et tout ce que vous voulez. Nous n'avons plus besoin d'un super sacrificateur, d'une tribu de Lévites, nous n'avons plus besoin d'un grand tabernacle, ni même d'une cathédrale, peu importe. Nous avons Jésus, Amen. Le sauveur du monde,
Il a dit, détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. En Jésus j'ai un temple. Il est même à la fois l'agneau, puisque Jean-Baptiste, le voyant arriver pour se faire baptiser, a déclaré, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il est, selon le livre des Hébreux, il est le sacrificateur élevé à la perfection, le souverain sacrificateur. Nous avons en Jésus un temple, un agneau et un sacrificateur, la totale. Ne cherchez pas une religion, vous avez besoin d'un sauveur. Vous avez simplement besoin de Jésus ce soir. Et Dieu nous fait grâce parce que Dieu dit dans sa parole, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. C'est sa bonté. Simplement, Dieu dit dans l'épître, deuxième épître de Pierre, Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Jésus déclare, je ne suis pas venu appeler les justes à la repentance, mais les pécheurs. Est-ce qu'il y a des pécheurs dans la salle ce soir? Moi, je suis un pécheur. Je ne suis pas meilleur que vous. Je suis un pécheur, je ne suis pas quelqu'un de juste. Je ne veux pas prétendre être quelqu'un de juste. Je suis simplement quelqu'un de justifié. Et là, il y a une totale différence entre quelqu'un qui est juste et c'est quelqu'un qui se présente devant Dieu avec ses mérites. Mais moi, je ne peux pas me présenter devant Dieu avec mes mérites. Quand je me présente devant Dieu, c'est avec les mérites de Jésus, recouverts par son sang. Et je peux courir dans son temple. Alléluia! Je peux courir dans la demeure sainte de l'Éternel parce que je suis couvert par le sang de Jésus. Mais le propre juste ne peut pas entrer dans la présence de l'Éternel. La repentance, une grâce que Dieu nous fait. Cinquième point, la repentance, une délivrance du péril. Jésus dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est un mot grave. Question maintenant de gravité. Puisque Jésus n'a pas lésigné sur le vocabulaire et sur les verbes, il a parlé de péril. Et la Bible parle de péril éternel. Elle ne parle pas de purgatoire, elle ne parle pas de purge, elle ne parle pas de passer au kercher dans le ciel. Non, la Bible dit, c'est maintenant que ça se décide, c'est ici-bas. Vous ne réglerez pas vos comptes là-haut avec l'Éternel. C'est sur la terre que nous prêchons l'Évangile. Ce n'est pas aux anges de le faire. C'est à nous de le déclarer. Et il y a péril dans la demeure. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Le seul moyen d'échapper à ce péril, notre ami était dans les pompiers, il sait quand il y a le feu dans une maison, il vaut mieux sauter. Il faut échapper au feu, il faut échapper aux flammes. On ne reste pas devant le feu en train de se demander, tiens, combien de temps je peux encore rester à l'intérieur? Ça crame, la température est en train de monter, mais pour l'instant ça va, je résiste bien. Il faut fuir quand il y a le feu. Il faut échapper aux flammes. Lorsque les flammes vous lèchent le corps, il faut échapper aux flammes. Et seule la repentance nous permet d'y échapper. Il y a quelques années, il y a un homme qui persécutait sa femme parce que sa femme allait écouter l'Évangile. Et parfois même, sa femme devait sortir par la porte de derrière pour aller à l'église. C'était une bête de muscle, un Espagnol comme on ne les fait plus. Un homme qui était vraiment belliqueux, rebelle. Il était contre le pasteur. Il avait en horreur la prédication de l'Évangile. Et il persécutait sa pauvre épouse, une épouse remarquable, une femme vraiment de dignité, une femme d'honneur. Mais lui, il négligeait, il méprisait cette femme. Et cette femme priait pour cet homme afin qu'il se tourne vers Dieu. Elle a souffert pendant des années. Combien de fois elle lui disait, priez pour mon mari, priez pour mon mari. Quand un jour le téléphone a sonné. Et là, elle était en larmes et elle nous dit, il faut vite aller visiter à l'hôpital. Cela fait quelques semaines qu'il est à l'hôpital. On a fait des recherches, il perd des connaissances au volant de sa voiture, mais en fait, les médecins viennent de faire tomber le verdict. Il souffre d'une tumeur foudroyante. J'ai pris rapidement ma Bible. Je suis arrivé dans sa chambre, j'ai cherché cet homme, je suis ressorti, je ne l'ai pas vu. J'ai demandé à l'infirmière où était monsieur Intel. Elle me dit, il est bien dans cette chambre, regardez, il est sur cette chaise là-bas, attaché par des draps. Et lorsque j'ai regardé cet homme, il était méconnaissable, il avait perdu plusieurs dizaines de kilos, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Cet homme qui était d'une montagne de muscles était là, retenu, il était maintenant retenu par des draps afin de ne pas tomber de sa chaise. Alors, j'étais bouleversé de voir un tel spectacle, un spectacle d'horreur. Je me suis assis sur une chaise à côté de lui et je lui dis, vous me reconnaissez, je suis l'ami de votre fils. Et il m'a fait signe de la tête, il me reconnaissait. Alors j'ai ouvert la parole de Dieu, j'ai compris que pour cet homme, il était urgent qu'il fasse la paix avec Dieu. Alors j'ai commencé à lui parler de Jésus. Il ne disait rien. J'ai ouvert la parole de Dieu dans Jean chapitre 3, verset 16, où il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il m'écoutait. Et je lui ai dit, je vous donne ma Bible, gardez-la avec vous. Lisez ce verset tout au long de cette journée, même cette nuit s'il le faut. Méditez sur ce que je viens de vous dire. Je lui ai expliqué comment être sauvé, comment faire la paix avec Dieu. J'ai prié pour sa guérison. J'ai demandé à Dieu de le guérir. Mais au fond de mon cœur, j'avais une autre conviction. Je sentais que c'était la fin pour cet homme. Et qu'il avait besoin de faire la paix avec Dieu. C'était l'heure pour lui. Le lendemain, je lui ai fait une nouvelle visite. Et cette fois-ci, lorsque je suis entré dans la chambre, j'ai assisté à un spectacle aussi terrible que celui du jour précédent. Cet homme était assis au bord de ma fenêtre, il tenait ma Bible dans sa main et il se frappait la tête, et il criait « Pardon ! Pardon ! Pardon ! Pardon !» Il suppliait Dieu de le pardonner. Cet homme qui avait été rebelle, cet homme qui avait persécuté sa femme, cet homme qui avait insulté le serviteur de Dieu, cet homme qui avait maudit la Bible, il était là maintenant, réduit à l'impuissance, serrant une Bible dans sa main, se frappant la tête, implorant la grâce de Dieu. Alors je me suis assis à côté de lui, je l'ai pris par les épaules, j'ai dit, rassurez-vous, Jésus vous aime. C'est l'heure de demander pardon, mais de saisir le pardon. Il était dans le profond désespoir parce que il savait qu'il fallait demander pardon, mais il ne savait pas qu'il fallait saisir le pardon. Il était dans les affres du tourment. Alors je lui dis maintenant, vous invoquez Dieu pour le pardon, mais recevez maintenant Jésus. Il vous pardonne maintenant. Et il s'est courbé, il a répété une simple prière de repentance, il a ouvert son cœur à Jésus. Et soudain, une paix a envahi cette chambre. Quelques heures plus tard, il est parti. Mais il est parti vers la gloire, dans la patrie céleste. Il n'y a pas eu un miracle de guérison, mais un homme est passé de la mort à la vie, de la condamnation au salut. Et il n'y a pas de plus grand miracle qu'un tel miracle, que celui du salut. Il délivre du péril et la repentance nous délivre du péril. Sixième point, la repentance, c'est un décapage. Vous avez entendu parler de K2R? J'ai eu quelques aventures dans les restaurants avec K2R. Je me souviens d'un bon restaurant où manger un bon couscous et le serveur a raté la marche et le couscous est arrivé sur l'évangéliste. Et après, on m'a bombardé avec K2R. L'après-midi, à la réunion d'évangélisation, c'était le Père Noël. J'étais tout blanc. Mais la Bible nous parle d'un autre décapage bien plus efficace que K2R, que l'eau de Javel aussi. C'est les trois R. La Bible nous parle de restitution, la Bible parle de réconciliation et la Bible parle de réparation. Les trois R de la repentance. La repentance, c'est vraiment un nettoyage, c'est vraiment un décapage. Et Jean-Baptiste dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Les gens qui se repentent sont capables de rendre ce qu'ils ont volé. Les gens qui se repentent sont capables d'aller se réconcilier avec leurs ennemis. Les gens qui se repentent sont capables de réparer. Ça, c'est l'œuvre de Dieu par la repentance. Il change l'intérieur, il change le cœur. Alléluia. Et quand je me suis converti à Jésus-Christ, le Seigneur m'a libéré de l'occultisme. Toute notre famille, depuis des générations, était vouée à l'occultisme. Ma mère, c'était une voyante, une guérisseuse, une devineresse. Moi-même, j'étais spirit et parapsychologue. J'étais ceintureur de karaté. Je faisais des stages pour être sélectionné en équipe de France Espoir. J'organisais des règlements de compte dans les cités. Je faisais vraiment les 400 coups et les mauvais coups. Et par la grâce de Dieu, j'ai entendu un jour l'évangile alors que je voulais me suicider à l'âge de 18 ans. Je voulais me jeter par la fenêtre parce que ma vie était un enfer. J'étais tourmenté par les démons. La nuit, des mains invisibles se posaient sur moi, me secouaient dans mon lit. Mon corps décollait en lévitation dans l'espace. Mon esprit se dédoublait. Il y avait des phénomènes surnaturels chez nous, des phénomènes de poltergeist, de projection d'objets dans l'espace. Les objets, les meubles se déplaçaient la nuit dans la maison. On a vécu des apparitions de spectres. Même ma petite sœur de 6 ans était possédée par le démon. Mon frère était drogué, il vivait dans l'alcool, il passait son temps dans les boîtes de nuit. Mon père avait un ulcère et les résultats des médecins nous annonçaient qu'il développait un cancer. Vraiment, toute notre famille était dans l'esclavage, dans le désespoir. Mais on a entendu l'évangile et toute la famille a été sauvée en une semaine. Ça, c'est un miracle de Dieu. Seul Dieu peut faire ça. Et quelques années plus tard, je retourne dans la ville où j'ai fait l'expérience de ce miracle. Je suis en train de marcher dans la rue et quelqu'un m'appelle, j'entends mon nom dans la rue. Franck, Franck! Alors je me retourne et je reconnais mon ancien professeur de karaté. Alors je traverse la rue, je lui serre la main, je suis tellement content de le voir. Je lui dis, mais ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Et puis il me dit, mais tu fais toujours ton truc là? Je dis, oui, je prêche l'évangile, c'est ça que tu veux dire. Oui, t'as vécu une petite crise mystique, dis donc. Il dit, t'inquiète pas, ça s'arrange. Je parcours la planète et je parle de Jésus maintenant. Ça s'arrange, je fais le tour du monde. Et puis, il me dit, dis donc, ça nous a surpris, là, un jour, quand t'es rentré au club, t'as rendu ta ceinture noire de karaté, tu as rendu les gants de boxe américaines, t'as rendu tes nunchakus, toutes tes armes, et puis tu nous as dit, maintenant, tu voulais devenir pasteur, vraiment, tu nous as stupéfait. Il me dit, et me regardant dans les yeux, il me dit, vraiment, qu'est-ce que t'as mal tourné? Les bras m'en sont tombés, je lui dis, non, j'ai pas mal tourné, j'ai bien tourné. La Bible parle d'un demi-tour, ça s'appelle la repentance, c'est la conversion. C'est un véritable décapage, la repentance. Mais quand vous parlez de décapage dans un monde de péché, les gens vous prennent pour des dingues. Lorsqu'on dit à l'alcoolique de ne plus boire, on est en train de vous dire que vous faites pression sur les gens. Lorsque vous dites au drogué qu'il faut abandonner la seringue, on vous dit que vous êtes un manipulateur. Ça, c'est la voix d'un pays agnostique, d'un pays athée, d'un pays anti-Dieu, d'un pays qui est en train de devenir un pays anti-Christ. Nous ne sommes pas là pour couper les cheveux en quatre. Nous sommes là pour casser les chaînes en deux. Amen. Nous ne sommes pas là pour prêcher la religion. Nous ne sommes pas là pour prêcher les traditions. Nous ne sommes pas là pour prêcher le rituel, nous sommes là pour élever le Christ qui lui peut libérer l'intérieur du cœur des gens. Alléluia. Et si vous avez besoin de cette vie intérieure, Jésus vous la donne ce soir. Septième point, la repentance est un processus. Encore deux points, on arrivera au huitième bientôt. La repentance est un processus. La Bible parle d'un fils qui un jour a réclamé l'héritage à son père. On a entendu parler tout à l'heure. Il a dit, papa, tu me donnes mon argent. Allez, dépêche-toi. Et il est parti. Il s'en est servi non pas pour construire une vie solide, il a commencé à tout dépenser dans la débauche, dans les casinos, dans les discothèques, avec les prostituées, il a tout dilapidé. Alors il a commencé à mordre la poussière parce que tout a une fin. Il était ruiné. Il était réduit à s'occuper des porcs, des cochons, pour gagner un peu d'argent. Et puis là, alors qu'il était dans la fange, il a fait l'expérience de l'esprit de repentance. D'abord dans sa conscience. La Bible dit qu'il a fait un examen. Et ce soir, je vous invite à faire cet examen. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Deuxième point, il a fait le constat. Combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance? Il faudrait peut-être que je réfléchisse. Là, maintenant, je suis ruiné. Je fais un examen. Il y a un constat. Ça ne marche pas. Ensuite, il a pris une décision, il a dit « Je me lèverai, j'irai vers mon père. » Ça, c'est dans sa conscience, il est dans la boue, il a de la boue jusqu'au cou, et son parfum, je peux vous assurer que c'est pas du Chanel, mais c'est plutôt du Charnel. Il sent, c'est une odeur nauséabonde, il est dans la boue jusqu'au cou, et là, dans sa conscience, c'est le travail du Saint-Esprit. Un examen, un constat, une décision. Et ce qui se passe dans sa conscience va se traduire deuxièmement maintenant dans les faits. L'obéissance, David le dit, il se leva. L'humiliation, il est allé vers son père. La confession, il a dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il aurait pu rester dans la boue. Et ce soir, vous êtes en train de prendre conscience de votre péché, vous pourriez dire, mais voilà, j'ai échoué, je fais un constat d'échec, je fais un examen de conscience. Je suis dans la boue, je suis dans la boue, je suis dans la boue. Mais il faut aller plus loin. Il ne faut pas en rester dans la boue. Il faut se lever. Il se leva, il alla vers son père et il a confessé dans les faits. Ce qui s'est produit dans sa conscience, il l'a traduit ensuite dans les faits. Et ensuite, que s'est-il passé? Le pardon est venu dans son cœur. Son père l'a embrassé. Et là, vous avez ce que Dieu veut faire avec vous ce soir. Il veut vous embrasser. Il veut vous prendre dans ses bras. Alors le père est allé chercher des sandales, parce que ceux qui marchaient à pieds nus, c'était les esclaves. Et depuis longtemps, il marchait à pieds nus. Il a pris les sandales, il lui a mis les sandales à ses pieds. Symbole de la libération, tu es un affranchi maintenant. Tu es affranchi, tu n'as plus besoin de vivre comme tu le vivais auparavant. Et puis, la restauration. Il lui a mis une robe, un anneau au doigt, on a fait la fête, on a sacrifié un animal. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Dans la conscience, dans les faits, et dans le cœur, c'est ce que Dieu veut faire maintenant par la repentance. La repentance, huitième point, c'est mon dernier point, la repentance c'est vraiment la clé d'or du royaume de Dieu. Repentez-vous, je termine par ce verset où Jésus dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Il y a deux royaumes ce soir. Il y a le royaume de Dieu. En anglais c'est « kingdom », c'est-à-dire « Dominion of God, Dominion of the King, c'est-à-dire l'univers, le domaine dans lequel le roi règne. Et puis, dans la parole de Dieu, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire si quelqu'un veut entrer dans le royaume, il faut qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire à son ego. Et nous avons ici un autre royaume, l'égoïsme, le système de l'ego, le système du soi, le système du je, le système du moi. C'est là où je suis le maître, c'est là où je règne. Et Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à son égoïsme, il doit renoncer au royaume du moi pour accepter le royaume du roi. Alléluia. Et lorsque je change alors de royaume, lorsque je quitte mon dominion, lorsque je quitte mon domaine, mon système, pour choisir le domaine de Dieu, le système de Dieu, alors là je vis la repentance. Amen. Quelqu'un dit la repentance, c'est comme la rampe de lancement où l'âme est envoyée en orbite éternelle et Dieu est au centre de la trajectoire. Alors Dieu maintenant est au centre de la trajectoire si vous passez par la repentance. J'aimerais vous permettre de le faire. Nous allons nous courber devant Dieu et vivre cette merveilleuse repentance. Pendant que nos chanteurs prennent place, nous nous tournons vers Dieu et vous allez pouvoir, vous aussi, vivre cette expérience bénie de la repentance. Vous allez pouvoir tourner la clé d'or et entrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit même, et c'est révolutionnaire, il dit, si vous vous repentez, le royaume de Dieu sera en vous.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com, sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.